Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public et quel public à l'Opéra National de Lorraine pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire à l'occasion du livre sur la place avec la bergamote de la critique, j'ai nommé Olivia de Lamberterie, Duel et les macarons, Arnaud Vivian, non seulement de Transfuge mais également de la revue Charles avec Jean-Claude Raspienjas de La Croix et avec le respectable Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française qui est en forme, il a pris son 4 heures donc il est normalement, il devrait aller jusqu'au bout de l'émission pour parler ce soir des romans de Céline Minard, Leïla Slimani, Andrei Makine, Olivier Py et Salman Rushdie. Le livre sur la place, se comprenez, pour ceux qui ne sont pas à Nancy, la place Stanislas, ce sont 550 auteurs présents dont beaucoup de vos victimes, 180 000 visiteurs, la présence des académiciens Goncourt, dont Philippe Claudel, qui préside cette 38e édition. Au programme, notamment, des entretiens avec Hubert Reeves, Kamel Daoud, Elisabeth Badinter, Virginie Despentes, François Bégodeau, Simon Liberati ou Yasmina Kadra. Vous remarquerez que je vous ai épargné la lecture de son nouveau livre cette année. Des tables rondes sur écrire ou transcender l'intime avec Annie Ernaux et Samuel Benchetrit, drôle de couple. Vivre ou survivre avec Céline Minard ou encore dans la tourmente du monde avec Karine Thuil que vous avez bien malmené la fois dernière. Et puis des lectures de Romain Gary par Jacques Gamblin, Virginia Woolf par Anna Mouglalis ou Éric Emmanuel Schmitt par David Sardou, chercher l'erreur. Dans le courrier de la semaine, on va être un peu rapide, puisqu'on est à Nancy, on va en profiter, mais plein de défenses et illustrations du roman de Jean-Paul Dubois, que vous avez bien maltraité, François Terrasson de Saint-Just, Saint-Rambert, dans la Loire, nous dit que Succession de Jean-Paul Dubois l'a bouleversé. Ce livre est noir, c'est vrai, mais alors quel panache dans l'écriture de cette noirceur. Il y a même une de vos critiques qui a dit « Je ne vois pas ce que son livre a d'utile, mais depuis quand un livre devrait-il être forcément utile ?» Ou Jean-Marc Esséry de Mélan dans l'Isère. « J'ai lu La succession de Dubois, j'ai aimé. Cela s'appelle un texte et c'est franchement moins déprimant qu'un tweet, un post, un snap ou un texto. » Ou Jean-Paul Breton qui nous dit « Quel étonnement que d'entendre vos critiques descendre le dernier livre de Jean-Paul Dubois. » C'est pour moi un peu comme Woody Allen au cinéma, Dubois, même mauvais, ce sera forcément meilleur que 90% de la production littéraire du moment. C'est un auteur qui écrit presque toujours le même roman, avec une grammaire impeccable et une dose d'humour. Enviable Hugo Dinard conseille aux critiques d'écouter l'interview de Jean-Paul Dubois chez notre ami Laurent Goumard sur Inter. Moi, ça me régale une telle modestie. Ou encore Éric Mouzin de Paris. Nous n'avons eu droit qu'à un mot déprimant, renvoyé comme à la pelote basque d'un critique l'autre. C'est un peu court. Et enfin Stéphane Aznar, ça c'est pour toi Michel, qui juge vos critiques parfaitement injustes au sujet de la parfaite succession de Jean-Paul Dubois. Et ce même auditeur, donc Stéphane Aznar, s'étonne que Michel Crépu ignore, outre la cougar et le Père Noël est une ordure, chef-d'œuvre du cinéma, qu'il ignore ce qu'est le gloubi-boulga. Eh bien, Stéphane Aznar, cet auditeur, nous dit que Casimir en donne la recette sur son site. Tu connais Casimir ?
Ben, non.
Dans un grand saladier,
sur le site,
dans un grand saladier, vous mélangez de la confiture de fraises, des bananes mûres bien écrasées, du chocolat râpé, de la moutarde de Dijon très forte, une saucisse de Toulouse crue mais tiède.
Ça me rappelle mon 4.
À cette recette de base, Casimir ajoute parfois quelques anchois ou un peu de crème chantilly. Michel va se régaler.
Merci.
Je t'en prie, c'est gratuit. Le grand jeu, Chez Rivage, c'est le nouveau roman de Céline Minard qui a rencontré le succès en 2013 avec Faillir être flingué, un western qui a obtenu le prix du Livre Inter. Et dans ce grand jeu, eh bien, une femme, la narratrice, fuit le monde et ses semblables, ou du moins essaye de le fuir, et en hauteur, s'il vous plaît, dans une forêt à flanc de montagne, le sommet approchant quand même les 3000 mètres. Son abri, c'est un tube écolo high-tech, fibre de verre et panneau photovoltaïque qui lui permet de vivre comme Michel, en autosuffisance, avec en prime une carabine et un violoncelle. Et elle marche, elle tient son journal intime, un peu à la manière de Sylvain Tesson, avec des phrases d'ailleurs qu'elle aurait pu lui emprunter, « Qu'ai-je négligé, qui conduit au bonheur ?» Elle robinsonne, elle parle aux oiseaux, elle chasse, pêche, plante des semis, cultive sa solitude, jusqu'au jour où elle constate qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette forêt. Une ombre qui est vêtue comme un moine. Je n'en dirai pas plus. Est-ce que cet exercice de survie vous a intéressé, vous qui êtes un peu les... Surtout Michel, les aventuriers de l'extrême, Olivia ?
Alors, il se passe toujours quelque chose à Nancy.
C'est quoi ?
C'est que quand on sort de l'enregistrement du Masque et la Plume, on tombe immanquablement sur les auteurs qu'on vient de déchiqueter. Donc Céline Minard, si elle est à la porte.
Quelle
non,
honte.
Alors, moi je n'aime pas tellement Céline
c'est
Minard.
C'est pour ça que les critiques partent toujours très vite après les enregistrements.
Moi, je trouve que c'est ce que j'appelle le syndrome une Ferrari, mais pour aller où ? Parce qu'elle écrit extrêmement bien.
Je connaissais pas ça. Nulle part, bien sûr.
Ah ben voilà. Elle écrit très très bien, mais ce qu'elle raconte en général me fait pousser des cris d'ennui. Alors là, je dois dire que j'ai poussé des hurlements d'ennui. Pourtant, au début, j'étais intéressée par l'expérience. Au début, ça commence par cette fille qui, si j'ai bien compris, parce que c'est très technique, et donc, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé, je dois le dire, elle est installée dans une sorte de suppositoire géant accroché à une montagne.
Voilà, c'est ce que j'ai appelé un tube écolo high-tech.
Voilà, un suppositoire, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère boire du champagne, place Stanislas, mais comme elle veut. Le début, ça ressemble à une sorte de mode d'emploi du vieux campeur. Rien ne vous est épargné sur le piolet, plein de choses que je ne connais pas. Bon, pourquoi pas ? Très bien. Après, très vite, ces passages sur cette vie, sur ce grand jeu, est-ce qu'on peut vivre tout seul, sont entrecoupés de petits passages métaphysiques sur le pourquoi de cette expérience. Je vous ai juste choisi trois phrases, après vous allez comprendre. Est-il impossible de ne pas s'engager dans la relation de promesse ou de menace, de ne pas y être engagé ? Tout se passe comme si la volonté ou la tentative de ne pas s'engager dans ce type de négociation équivalait à une réponse qui serait faite à l'intérieur de cette négociation. Donc, moi je me suis
oui,
dit,
mais c'est injuste.
Est-ce qu'on est puni ?
Tu es injuste.
Je pensais à vous, à la lectrice, au lecteur qui rentre chez lui le soir, qui a acheté le livre de Céline Minard.
Et qui se met un gros suppositoire.
Jérôme
bah c'est toi qui as comparé ça à un suppositoire.
Non. Qui habite dans un suppositoire.
Oui, bah c'est pire.
Non, je trouve que c'est extrêmement prétentieux, mais alors d'une prétention, c'est pompeux. Il paraît que cette fille, dans la vie, a beaucoup d'humour. Mais écoutez, pourquoi elle s'en cache
Je suis pas sûr que quand elle te croisera, elle aura autant
d'humour. Il y a une scène que j'ai aimée parce que tout d'un coup, il se passe quelque chose. Tout d'un coup, il y a une tension. C'est quand elle rentre dans une cabane et qu'il y a une marmotte qui est de la taille d'un cochon et elle se retrouve dans le noir avec la marmotte de la taille d'un cochon.
C'est pas marrant.
Pour une fois, elle a la trouille et pour une fois, il y a un tout petit peu d'émotion.
Arnaud.
Non, mais c'est vrai, et Olivia a un peu raison, évidemment, elle exagère totalement, mais il y a un côté Zarathoustra au vieux campeur qui est assez étonnant.
Un côté Ushuaïa aussi.
Oui, un côté, mais oui, mais surtout, voilà, c'est Zarathoustra au vieux campeur. Mais moi, ces passages-là, je les ai sautés. Hein.
Comment ça, tu les as sautés ? Sauté dans le vide, alors.
Mais oui, bien sûr, mais parce que.
C'est la première fois. Avec piolet ou sans piolet ?
Non, moi, je trouve ce livre étonnant au sens que c'est vraiment du roman pur, évidemment. Tout ça, on ne sait pas du tout où ça se passe. On ne comprend pas le pourquoi du comment. Et c'est ça que j'aime bien, d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi elle va se faire. Alors, l'abri, il est quand même assez sensace parce que elle a donc un violoncelle, on l'a dit, mais elle a aussi un inhalateur de cannabis qui peut servir hein, au cas où. Donc, elle a aussi le cannabis qui va avec. Ah, et on va quand même découvrir qu'elle a pas mal de caisses de rhum au fur et à mesure du récit. Donc là, ça se discute.
C'est un suppositoire très riche, quand même.
Oui, hein. Oui, c'est quand même un suppositoire assez agréable. Ouais. Le violoncelle, le cannabis, les caisses de rhum.
Si tu vas sur le site du vieux campeur, tu verras qu'il y a tout ça est absolument...
Ouais. Et puis, elle fait cette rencontre. Et là, c'est un personnage aussi qui est.
Il
totalement...
faut pas dire qui est sous le.
On peut dire, il y a une phrase où elle commence à. Celle qu'elle va rencontrer commence à lui raconter sa vie et c'est écrit comme ça. elle est ou a été ou était peut-être l'amie d'un général chinois. Donc vous voyez, donc il y a quand même, c'est une phrase juste magnifique. Et elle va faire un portrait où on ne sait pas si c'est ce général chinois ou pas, ou l'ami de ce général, on n'y comprend rien. Et pourtant, oui, oui. Et pourtant.
Et c'est bien comme ça.
Et pourtant, justement, ce personnage, il est incroyable et il existe. Et c'est un livre de funambule, c'est un livre sur le funambulisme, et c'est un roman qui est vraiment d'une légèreté, pour le coup, à côté de tous ceux qui paraissent, qui peuvent être très bons d'ailleurs, mais qui ne sont pas légers. La mort est omniprésente dans cette rentrée littéraire, c'est absolument incroyable. Et là, soudainement, vous avez quelque chose quand même de... une fiction pure, quelque chose qui vous emmène, vous marchez ou vous marchez pas, mais moi j'ai vraiment marché.
Michel.
Ah, je suis d'accord avec Arnaud, j'ai envie de défendre le livre pour la même raison, c'est-à-dire que c'est un livre sauvage, c'est un des rares livres sauvages de cette rentrée.
Oh, mais non, le livre de Laurent Mauvigny est aussi sauvage, sauf que tu ne connais pas la
tradition. Il y a sauvagerie et sauvagerie, en tout cas, la densité de ce texte, parce que c'est aussi ça ce livre, c'est-à-dire que c'est l'invention d'un langage au fur et à mesure qu'elle aménage son coin. Alors on se croirait parfois dans un Beckett, dans ces récits de Beckett. Où...
Tu avais bu du rhum toi-même.
Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est des choses auxquelles on pense en lisant. Et c'est vrai qu'il y a certains personnages de Beckett qui sont comme ça enfermés dans 3 mètres carrés et qui déplacent un objet, on ne sait pas pourquoi. Là, il y a quelque chose de ça. Je ne compare pas avec Beckett, mais je dis qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je n'ai pas lu de choses équivalentes dans cette rentrée qui donne cette sensation de sauvagerie.
Un romanesque qui est totalement étrange, mais qui, à mon avis, fonctionne.
Jean-Claude, oui. C'est un livre en 3 étapes. C'est-à-dire que la première étape, qui est l'installation, est vraiment intéressante. Alors, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'en plus, elle vient en hélicoptère. Eh bien, oui. Ça revient.
Donc, c'est pas un truc d'écolo non plus. C'est pas un livre
d'écolo.
C'est vraiment
un flanc de montagne. Hein.
Oui. Et puis, c'est à 3400 mètres d'altitude. Donc, le premier, il y a 3 tiers. Le premier tiers.
Oh là, il va nous faire tous les
non,
tiers.
Non, le premier tiers n'est pas inintéressant. Ce que tu dis sur le côté vieux campeur est d'une certaine façon exigé par le roman. C'est-à-dire qu'elle est réduite à cette survie-là. Et cette survie, elle est liée aux instruments qu'elle a sous la main et qui sont. Elle est obligée de les décrire parce qu'elle va survivre avec ça. Ensuite, le deuxième tiers, il y a cette fameuse rencontre avec la marmotte. Et le troisième tiers, c'est la rencontre avec la personne dont on ne peut pas parler. Et ça se dégrade au fur et à mesure. C'est-à-dire que, au début, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé ça très, très bien. La rencontre avec la marmotte, déjà, ça devient un petit peu délicat. Et alors, la fameuse rencontre totale.
La moinesse.
Quand elle fait pousser ses radis, ça m'intéresse moyen.
Oui, oui.
C'est long.
Mais. Quand elle rencontre la marmotte et qu'elle va être dans une bataille de territoire empissant, ça m'intéresse. Et quand elle rencontre celle dont on ne peut pas parler, alors là, c'est prodigieux.
Non, parce que tu as juste oublié de dire, tu dis, on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi elle est là. Mais si on le sait, elle explique qu'elle monte dans son suppositoire pour fuir l'humanité. Oui. Parce que croiser croiser qui que ce soit dans la vie quotidienne, c'est forcément s'exposer à rencontrer tous les jours un ingrat, un envieux, un imbécile. Donc, elle fuit pour ne pas les rencontrer. Et évidemment, se produit ce qui... Donc, il y a le sas de décompression qui est avec la marmotte, et ensuite, elle va tomber sur la bonzesse. Et là, ça devient un truc qui, philosophiquement et littérairement, va devenir de plus en plus filandreux, de moins en moins intéressant.
Non, ce qu'elle va rencontrer, c'est le funambulisme.
Pas toutes les missions dans le suppositoire. On a plein de livres inscrits.
Le Skyline, c'est ça, c'est qu'elle rencontre. C'est un roman. Vous savez ce que c'est le Skyline ? C'est des gens qui marchent sans un fil, sans balancier. C'est une activité absolument pas dangereuse. Le fil peut être à 50 cm de hauteur, ça n'a aucune importance. C'est devenu un véritable exercice de spiritualité maintenant. C'est une activité. C'est une activité urbaine. Très important. Et c'est un roman là-dessus. Sur cette activité-là, très particulièrement.
Le grand jeu, c'est chez Rivage. Et c'est de Céline Minard. L'expédition se poursuit avec L'archipel d'une autre vie au Seuil, le nouveau roman du franco-russe Andrei Makine qui sera intronisé sous la coupole le 15 décembre prochain, au cas où vous ne le sauriez pas les uns ou les autres, vous y serez j'espère, à l'Académie française, Michel. Après la montagne de Minard, la taïga donc de Makine, dans cette Sibérie qui jouxte l'océan Pacifique, on est là dans les années 50, donc années staliniennes, du moins dans le récit raconté par un homme d'aujourd'hui, un criminel en fuite, et des militaires à sa poursuite dans une immense cité évidemment sauvage, évidemment hostile, que le fuyard, mais est-ce que c'est vraiment un homme, je ne vous le dirai pas, connaît bien et où il entraîne le chef de ses poursuivants, un certain Pavel Gartsev, jusqu'à l'archipel d'une autre vie, donc un western sibérien, signé par l'auteur du Testament français qui avait eu gros doublé, un prix Goncourt plus prix Médicis en 95, l'archipel d'une autre vie. Arnaud,
c'est encore un livre d'anachorète. En fait, ça défend aussi l'idée que, comme le livre de Cécile Mina, il faut s'éloigner de la société. C'est le seul moyen qu'on trouve pour survivre, c'est de rompre les amarres avec.
Tu nous fais un numéro Nicolas Hulot ce soir.
C'est ce que le livre raconte d'une manière. Alors, on peut dire que le Quai ne s'est pas trompé, parce que c'est raconté d'une manière très académique. Donc les académiciens vont à l'académie, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoi. Donc c'est très académique. Il y a quelques scènes assez frappantes. La structure est pompée sur les diptynègues, mais c'est pas grave, on lui pardonne. À l'académie, on peut faire du tout.
Parce
comme
qu'il faut
ça
dire
aussi,
qu'à la, à la fin, il n'y a plus qu'un poursuivant, si j'ose dire.
Oui, c'est ça. Mais il y a quelques scènes. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène. En fait, ce qui est très beau, c'est le début sur l'Union soviétique au moment de la guerre froide. Donc, ils sont persuadés qu'il va y avoir une attaque atomique, il y aura la guerre atomique, et donc ils entraînent leurs soldats à se mettre dans des abris anti-atomiques qui sont de fortune, évidemment. Et il y a une scène terrible où il est enfermé dans cet abri atomique, donc ils font une répétition générale, si on peut dire, de conditions de guerre. Et cette scène est une des scènes les plus fortes sur justement ça, la guerre atomique, que j'ai pu lire, alors que ça a été beaucoup traité en littérature. Mais c'est vraiment une très belle dénonciation de la guerre atomique.
Jean-Claude ?
Non, je vais en dire beaucoup de bien. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Et je trouve, tu disais qu'il y avait beaucoup de morts dans cette rentrée littéraire. Moi, ce qui me frappe, et c'est symptomatique, c'est précisément cette fuite de l'humanité. C'est-à-dire, on peut plus vivre ensemble, on peut plus supporter, il faut partir, quoi. Voilà. Donc c'est symptomatique que ces deux livres-là, qui sont des livres,
mais c'est quand même pas vrai tous les livres, ça, une fois.
Non, mais c'est symptomatique que ces deux livres, qui sont considérés comme des livres importants dans cette rentrée, avec des auteurs qui se sont pas donné le mot, travaillent sur cette matière-là, c'est-à-dire celle de fuir le monde, quoi, et reconstituer une sorte d'humanité qui va se heurter aux mêmes limites que celles qui les ont fui. Bon, ce que je trouve, tu dis académique, moi je suis désolé, j'aime beaucoup beaucoup ce livre, je trouve qu'il est magnifiquement écrit, je trouve qu'il y a de très très beaux passages, je trouve qu'il y a une capacité chez Makin, en dépit de cette lourdeur que vous avez l'air de dénoncer, qui n'est pas, moi je trouve, une lourdeur, mais au contraire, quelque chose qui charpente, qui donne de la puissance à ce texte, des très très belles évocations. Par exemple, quand il explique comment on rentre dans la taïga, et qui n'est pas ce qu'on imagine, c'est-à-dire que c'est plus de l'ordre de la nage que de marcher, parce que marcher dans la taïga, c'est se perdre, c'est-à-dire qu'on va être pris dans des sables mouvants, quoi. Il y a un moment dans un camp, il y a un filet de vapeur qui s'échappe d'une théière, et ça lui rappelle un souvenir d'enfance qui n'a aucun rapport avec la théière. C'est absolument magnifique. Il y a cette espèce de bonheur tranquille de ces quatre qui vont essayer de rattraper ce fuyard, ce fugitif, ce bonheur tranquille, ce bonheur tranquille.
Ils sont totalement caricaturaux.
Pour le coup, c'est un condensé d'humanité. On a une humanité en réduction.
Caricaturaux.
En plus, il y a un des personnages qui s'appelle Ratinski, donc on peut dire que c'est la marche de Ratinski.
Quel lecteur tu es ? Quel lecteur ?
Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce lien de chasseur avec Gibier. Enfin, je voudrais dire une chose, je trouve qu'il y a chez Makin, et c'est une de ses forces depuis qu'il est arrivé dans la littérature française en écrivant en français, il y a une vraie beauté de la langue, il y a un amour de la langue française qui, je trouve, est très inspirante, et je vais même aller jusqu'à dire qu'en tant que lecteur, on peut éprouver une sorte d'allégresse à lire ce travail-là. Voilà, ne vous en déplaise. Et je trouve ça très bien qu'il soit reçu le 15 décembre à l'Académie française. Et pas pour des raisons académiques.
Mon petit Michel.
Comment dire ? La lecture de ce livre m'a littéralement interloqué. Pour deux choses. La première chose, c'est l'invraisemblance. Quand on a lu un peu la littérature sur les camps, sur le goulag,
c'est absurde.
On sait que ce livre est totalement
impossible,
extravagant.
Impossible. Oui.
Bah, ça décharge, il cherche pas à être réaliste non plus.
Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand on a lu un peu les textes sur les camps, on est sidéré par l'invraisemblance totale de ce livre, qui le prive de toute crédibilité, même symbolique. Deuxième chose, plus grave encore. C'est je ne sais même pas comment dire. Je me suis demandé en le lisant si l'éditeur ne s'était pas trompé de version tellement c'est mal écrit. Oui, c'est effroyablement mal écrit.
Je vais te dire, j'ai même moi cherché un moment le traducteur. J'ai vu que c'était pas oui, écrit directement.
Exactement. Moi aussi, ouais, j'ai cherché un traducteur. Je me suis dit, j'ai un problème.
Je voulais tout faire reposer sur les épaules du traducteur.
Je ne veux pas. Je ne fais jamais le sketch de lire des extraits.
Non, ça, on le fera tout à l'heure pour un autre livre.
Mais c'est pas croyable. C'est incroyablement mal écrit. Et ça pose une grave question. C'est la troisième chose. Alors, mais je l'ignorais, je l'apprends à l'instant et j'en suis absolument bouleversé. L'arrivée de Makine à l'Académie française. Mais c'est pas croyable.
Tu savais pas.
Je savais pas qu'elle est.
Non, mais non, mais je vis un peu hors du monde. Je vis un peu hors du monde. Moi, je suis comme.
C'est Hibernatus. C'est lui qui est né en Sibérie.
Tu vis dans un suppositoire.
Mais non, mais c'est ahurissant quand on a. Juste un peu, une petite mémoire des derniers académiciens élus, mais ce n'est pas croyable comment on a pu en arriver là. C'est incroyable. Incroyable. Je suis mais scandalisé et effrayé. Je n'ai jamais lu un livre aussi médiocre que ça. C'est pas croyable.
Bonsoir, Andréï. Olivia.
Alors moi, je n'aime pas tellement André Maïkin, parce que ça m'ennuie et que je trouve effectivement que c'est pas très bien écrit. Mais celui-là, j'ai beaucoup aimé. C'est exactement le contraire de Céline Minard, avec une histoire tout à fait similaire.
Oui,
Céline Minard écrit très bien, des choses qui ne m'intéressent pas. Lui, il écrit pas très bien, des choses qui m'ont assez intéressée. Je dois reconnaître.
Je trouve que le
livre est bien fichu. C'est écrit un peu scolaire, bon, un peu académique, mais c'est pas pour ça qu'on le lit. Je trouve que l'histoire tient debout drôlement bien. Que ces quatre personnages, au début, ils sont très caricaturaux, mais ils ne le restent pas. Je trouve qu'ils évoluent.
Ils disparaissent au fur et à mesure.
Avant de disparaître.
Ils évoluent dans l'insignifiant.
Je ne suis pas d'accord.
Il y a un côté, on a perdu la 7e compagnie, qui est un peu gênant par moments.
C'est vrai. Alors, c'est justement.
Sans Gérard Rinaldi.
Mais c'est justement pour ça que le livre est intéressant, parce que si on le prend au premier degré, il est totalement improbable comment ces quatre gars, ils n'arrivent pas, à mettre la main sur un fugitif dont on n'a pas le droit de parler, comme dans les livres de Selmina. Ça serait vraiment des incapables. Mais parce que c'est pas le propos du livre.
Tu connais la Taïga ?
Le propos, j'adorerais y aller. Le propos du livre, bien sûr, honnêtement, ça donne envie.
Je vais t'emmener, tu vas voir. C'est vraiment. Tu
comprends ça, Michel.
Si je peux me permettre, je te déconseille.
On prend une cagoule pour sortir pour pas croiser ces luminaires et on y va, d'accord ?
Oui. Je finirai avant la fin de l'émission.
Je vous promets, c'est
aussi
un livre. Makine
qui vous attend.
Pas du tout comme on imagine. Parce qu'en fait, rien ne marche dans ce livre. C'est comme un film.
Ah, tu l'as aimé ?
Oui. C'est un film des frères Cohen, parce que tout est un peu border, il sort complètement des clous.
N'insulte pas les frères Cohen.
C'est que j'adore.
Olivia, ta générosité t'emmène dans des sphères.
Je l'ai lu jusqu'au bout, je trouve pas.
C'est déjà un mérite, ça.
Mais parce que j'étais intéressée. C'est un livre qui est haletant, il y a une vraie tension, un vrai suspense. Je trouve que la dernière partie, qui n'a rien à voir avec le début.
Ah, tu ne révèles pas la.
Que je ne raconterai pas, marche bien aussi. Et je trouve que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu.
Bravo, bravo Olivier.
Bravo.
Bravo Olivier.
C'était la. Oh, je t'en prie.
Je peux rencontrer André Maïkin demain.
L'archipel
Bonjour.
D'une autre vie, c'est au seuil. Et c'est de Andréï Maïkin. Chanson douce chez Gallimard, le deuxième roman de la jeune franco-marocaine Leïla Slimani qui avait fait fureur avec ce livre ultra nymphomaniaque qui était dans le jardin de l'ogre. Et Chanson douce s'ouvre par une scène, c'est trois pages, terrible, en même temps admirablement composée, je trouve, mais terrible, la mort d'un petit bébé, sa petite sœur encore en vie, après s'être battue comme un fauve, écrit Slimani, et puis la mère, à côté, en état de choc, leur nourrice les a tués, avant de se planter le couteau dans la gorge. La suite se déroule avant, évidemment, vous l'avez compris, à Paris, dans le 10e arrondissement. Myriam a deux petits-enfants, Adam et Mila. Elle décide de reprendre son boulot dans un cabinet d'avocat avec son mari, producteur de musique. Elle cherche une nounou et après un casting d'enfer, elle engage Louise, que la fille parfaite, la médaille d'or des babysitters, une sorte de Mary Poppins dévouée, efficace, indispensable. Évidemment, je ne vais pas en dire davantage, c'est très bien construit. Moi, je suis certain que Chabrol en aurait tiré un film et qu'il aurait même gardé le titre très trompeur de ce livre. Dans sa dédicace, d'ailleurs, Leïla Slimani m'avait écrit « Chanson douce, une berceuse cruelle ». Et ça aurait aussi pu faire, à mon avis, un titre. Michel.
Ah ben là, on retrouve ce que c'est que la composition littéraire. Là, pour le coup, c'est autre chose que ce dont on vient de parler. C'est comment dire ça, c'est du beau, très beau travail de professionnel, plus que ça même. C'est...
Tu parles de la nounou ou tu parles de l'auteur?
Non, je parle du livre, je parle de l'auteur. J'étais un petit peu... En même temps, c'est curieux parce que c'est un peu ce que je déteste a priori, c'est-à-dire le faux polar qui sert de prétexte à un roman ultra-sociologique, ce qui est un peu le cas quand même. Mais c'est plus que ça, c'est mieux que ça, c'est beaucoup mieux. Au début, j'étais aussi un peu désorienté. J'avais l'impression de lire un numéro spécial d'Astrapi pour les parents, l'éducation des enfants. Non, mais c'est les impressions de départ, de lecture, comme ça.
Et mais puis, l'écriture et la composition,
mais de la cette composition scène d'ouverture, et la composition est magistrale.
C'est époustouflant.
Est magistrale.
Oui, et puis en plus réussir à tout dire au début pour ensuite
mais ça, décliner. Mais ça, c'est un truc dramaturgique.
Ah bon déjà. Tu l'as souvent fait?
Non, mais je l'ai souvent lu.
De Jean-Claude.
Ah, c'est un des grands livres de la rentrée.
Ah oui.
Ah, c'est vraiment un livre
incroyable. À mon avis, il pourrait avoir un grand prix.
Bah, il le mérite. Ah,
oui.
Hein, il
deux mois. Hein. Je dis ça parce que comme les Goncourt sont aussi à Nancy.
Il le mérite parce que c'est un livre sur les glissements progressifs d'une tragédie qu'on voit arriver. Donc on sait déjà, dès l'entrée, ce qui va se passer. Mmh. Et pourtant, on est tout le temps...
Enfin,
tout le
on
temps
croit dans... savoir exactement ce qui s'est passé. C'est un peu plus complexe que ça.
Oui, enfin, en tout cas, on sait qu'il y a deux enfants qui sont morts. On sait qu'il y a une nounou qui vient de se suicider. Donc on sait que... Voilà. La progression, tu parlais de composition, la progression narrative, d'écriture, de cette tragédie qui est basée sur des bons sentiments, c'est la tragédie des bons sentiments, c'est-à-dire comment aujourd'hui un couple trentenaire qui appartient à une classe sociale un peu supérieure a choisi une nounou.
C'est des bobos.
C'est des bobos, voilà, c'est le roman de la boboïtude.
Anatomie
voilà.
d'un couple bobo.
C'est ça, exactement, c'est le roman de la boboïtude, voilà. Et comment peu à peu les choses s'enferment dans justement les bons sentiments, c'est-à-dire comment, avec la bonne conscience,
le
comment,
politiquement correct,
comment on est très très bien dans son confort, combien on fait une place pour cette nounou qui est à la fois indispensable et en même temps un petit peu invisible, et en même temps on l'entoure de beaucoup de prévention, c'est-à-dire on est très très bien soi-même, sans se rendre compte qu'on est en train d'enfermer quelqu'un dans quelque chose qui va devenir une mélancolie, puisqu'il l'amène en vacances avec eux, il l'amène en Grèce, puis ensuite, elle vit avec l'idée que peut-être elle retournera en vacances avec eux. Évidemment, ça va pas se produire parce qu'elle a fait quelque chose qui ne lui a plus.
Là, tu en dis trop, là.
Non, mais c'est juste ça, quand même, pour dire
oui, mais...
C'est ça. Peu à peu s'installe une sorte de mélancolie que eux ne voient pas venir et qui va devenir délirante chez la nounou.
Et une fausse intimité, une fausse complicité.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout est faux. C'est-à-dire cette bonne conscience aboutit à des situations extrêmement fausses qui vont déraper, qui vont devenir de plus en plus terribles,
diaboliques,
et l'acte va se produire. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà de l'intrigue et de ce qu'on vient de dire, c'est en effet le travail littéraire qui est absolument magnifique, époustouflant.
Et encore, je le rappelle, un deuxième livre.
Deuxième livre. C'est un livre très très fort. Hein,
et le premier était très fort aussi.
Ouais, vraiment, ouais.
Olivia.
Oh ben, c'est un livre vraiment très très réussi. Et la première scène montre... Leïla Slimani, qui est une toute jeune femme, elle est déjà un grand écrivain. Après, je ne lui dis pas merci, parce que personnellement, je n'ai pas engagé de nounou pour mes enfants cette année, tellement le livre est terrible. Hein. Vous parlez de bons sentiments, mais...
Tu ne parles pas de nounou pour ton fils de 30 ans, non, non.
Non, mon fils n'a pas 30 ans, mes enfants ont encore l'âge de me garder par des nounous. C'est un livre d'une tension absolument incroyable. Alors, ça naît bien évidemment du fait que nous, on connaît déjà la tragédie, que les parents ne le savent pas. Et moi, j'ai passé tout le livre à me dire, mais il faut les prévenir, ces parents, de ce qui est en train de se passer.
Oui.
On a envie de leur dire. Et en même temps, c'est exactement la métaphore de ce qui se passe quand vous êtes parents et que vous faites garder vos enfants. C'est que vous ne savez pas ce qui se passe chez vous quand vous n'êtes pas là. Donc ça, je trouve qu'elle le raconte très très bien. Après, au-delà du thriller domestique, moi, je trouve que c'est un livre aussi sur la lutte des classes, parce que des bons sentiments, il n'y en a pas tellement. Très vite, les rapports entre la mère et la nounou sont très ambigus, parce que la nounou est l'employée de la famille, mais c'est une employée évidemment pas comme les autres, puisque les parents lui laissent ce qu'ils ont de plus précieux. L'ambiguïté de cette relation, elle est dépiautée, je trouve, de manière magistrale, parce que il y a de la jalousie, la mère a toujours peur que la nounou soit prise pour la mère. Il y a des mots, d'ailleurs, très politiquement incorrects au début, où elle dit « je ne veux pas une maghrébine parce que je ne crois pas à cette solidarité des migrés », des choses assez violentes. Il y a quelque chose de très fort sur cette relation, et puis il y a quelque chose de très fort, en filigrane dans tout le livre, sur qu'est-ce que c'est que d'être une mère aujourd'hui. Et elle raconte la souffrance des mères. C'est un truc qui n'est pas tellement dit, qui est que, bien sûr, elle raconte la libération que c'est de laisser ses enfants pour aller travailler. Et ça, c'est déjà une chose qui est difficile à dire. Et elle raconte en même temps la souffrance que c'est de laisser ses enfants pour aller travailler. C'est un livre vraiment très, 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 je trouve, magistral.
Il ne manque plus qu'Arnaud pour ajouter au concert unanime. Oui,
tu disais Chabrol, mais en fait, Chabrol l'a déjà fait, il a tourné. Fait, oui, c'est la cérémonie.
La cérémonie qu'il appelait un film marxiste.
Oui, adapté d'un roman de Ruth Handel, qui s'appelle L'analphabète.
Avec Isabelle Huppert.
Voilà, très très beau film, film absolument magnifique. Un vrai film, effectivement, sur la lutte des classes. Un vrai film marxiste, pour le coup. Et ce livre, ça, celui de Leïla Slimani, est aussi un livre sur la lutte des classes et un livre marxiste. Je connais très bien le 10e arrondissement, je connais très bien la rue d'Hauteville où vit ce couple, je connais très bien les nounous. Je viens juste de passer au stade babysitter, je peux vous dire que c'est quelque chose dans la vie, d'arrêter le stade nounou. Rien que ce mot-là, d'ailleurs, hein, parce que c'est ça, c'est la nounou, en fait. Et Léa Slimani, qui le connaît très bien, il y a un côté sociologique absolument formidable dans son livre, note bien que dans ce 10e arrondissement, la plupart des nounous, on va dire à 90%, sont noirs. C'est ainsi, mes voisins du dessus m'avaient dit « Ah, la vôtre, au moins, elle est blanche. Il votait Sarkozy, j'ai déménagé. » Mais c'est pour vous dire que je connais bien.
Tu es resté dans le 10e ?
Je suis parti dans un autre arrondissement. Du coup, je connais bien, et elle fait du Simenon. Franchement, là, depuis deux livres, en fait, parce que son premier livre était aussi un livre formidable d'un point de vue sociologique, elle fait du Simenon, c'est-à-dire que ce qui est très beau, c'est que puisqu'on sait que cette femme a tué deux enfants, et qu'elle, d'ailleurs, elle a essayé de se suicider, mais elle s'est ratée, finalement, ce à quoi on assiste, ça serait un super avocat de la défense qui serait là au procès, aux assises, et qui raconterait l'histoire. Et c'est pas par hasard si la femme est avocate, justement. Et d'une certaine manière, ce qu'on entend, c'est une avocate qui va vous expliquer pourquoi une femme a basculé dans ce meurtre odieux de deux enfants.
Chanson douce, vous l'avez compris, c'est le livre que Le Masque et la Plume vous conseille. Il est signé Leïla Slimani et c'est chez Gallimard. Et je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, qu'on est à l'Opéra National de Lorraine à l'occasion du livre Sur la Place. Les Parisiens, le 4e roman chez Actes Sud d'Olivier Py, le patron du Festival d'Avignon, un roman de 550 pages, écrit dans une langue qui pourrait d'ailleurs parfois laisser croire que l'auteur a abusé de substances illicites.
C'est pas grave, il y en a eu d'autres avant lui. Hein.
Non, je résume très objectivement ce livre où on suit Aurélien dans sa conquête de la capitale, un roman à clé. Où on croise le ministre de la Culture, qui ressemble beaucoup à Frédéric Mitterrand. Je rappelle que c'est lui qui a viré Olivier Py de l'Odéon. Où on croise l'actuel patron du Français, Éric Ruff, où les backrooms sont les antichambres des théâtres et des opéras, où on passe de fêtes en orgies, et où quand on ne baisse pas, on se fait baiser. On apprend ici que Paris, là je cite maintenant, est la capitale de l'élégance parce qu'elle sait que le monde est un charnier.
Ça c'est fort.
Que Paris est aussi une machine à détruire les âmes et à avilir les destins. Que la musique, ça je le savais, n'est pas un son, mais une réconciliation.
Oh, c'est vrai, quand on y pense.
Que le théâtre est le lieu du non-savoir, qu'il faut poémiser le présent. Et mon préféré, c'est qu'il faut branler l'inébranlable.
Ben, c'est assez joli quand même, hein.
Mais j'en ai beaucoup d'autres, mais j'ai pas voulu...
Je suis d'accord. Celle-là,
elle est belle. Hein,
je suis d'accord.
Michel?
Ah, c'est un livre qui, évidemment, on sent que ce livre est le résultat d'une maturation, d'une expérience. Il émane de ce livre un savoir sur cette réalité que Olivier Py résume à travers ce vocable, ce nom de Rastignac, qui est tout à fait...
Il s'appelle Aurélien, et ça se passe aujourd'hui.
Et ça se passe aujourd'hui, naturellement, ça se veut, au fond, et il y arrive d'une certaine manière... À décrire le Rastignac contemporain du XXIe siècle, dont nous sommes contemporains. C'est extrêmement ennuyeux parce que le modèle Rastignac, même appliqué à des exemples qui sont ceux du livre, qui fonctionnent très bien, a ses limites aussi. Et c'est ce qui m'a finalement gêné comme lecteur de Balzac, puisque c'est quand même Balzac là, qui est en cause avec Rastignac. Balzac n'a jamais... limiter son travail d'explorateur des mœurs à la figure de Rastignac. Rastignac, c'est un moment dans la comédie humaine, ce n'est pas un terminus.
ce n'est pas l'incarnation de la de ce que Pi décrit dans son livre. Donc je trouve que à la fois je suis pas insensible du tout à la à l'espèce de baroque qui d'ailleurs est assez proche de Pi, enfin de ce qu'il fait de, au théâtre, que j'aime bien, qui m'intéresse. Mais
tu as
mais,
dû être sensible au fait que c'est aussi mystique, hein. C'est pas simplement
érotique. Oui, il y a une
érotique,
dimension. Il y a une dimension. Il y a énormément de passages dans ce livre qui sont des réflexions, des méditations. Mais c'est aussi ça qui fait problème, parce qu'il y a un moment où ça, on sature et que il faut savoir mettre en branle, c'est le cas de le dire, la machine romanesque. Je vous en prie. Donc il y a quand même un ennui qui finit par s'installer et qui fait qu'on a envie de rejoindre Céline Minard à 3000 mètres d'altitude avec un moine, etc. Mais oui, la tentative est intéressante.
On va tuer un peu de mal quand même.
Oui, j'ai du mal.
Olivia.
Merci de me délivrer.
Non, mais je suis un petit peu d'accord avec Michel sur le projet. Moi, j'adhérais au projet littéraire. Évidemment, il y a le Rastignac, il y a l'Aurélien d'Aragon aussi. C'est quand même pas au hasard si ce prénom est choisi. Et je trouve que quand tu commences, c'est baroque, c'est énorme, c'est boursouflé, c'est érotique, c'est pornographique, c'est tout ça. Mais du coup, c'est un peu trop. Donc, je trouve que les 100 premières pages, moi, je les ai quand même lues assez contente, parce qu'il y a quand même des fulgurances, tout d'un coup, il y a une vraie langue.
Il y a une langue.
Non,
il y a même beaucoup de langues.
Une vraie langue.
Alors après, toute la journée, je me suis demandé, est-ce que
la langue, c'est vrai, mais en même temps,
ça devient 50 Shades of Gay. Je suis désolée. C'est très démodé. Voilà. Ce qui m'a frappée, c'est que c'est démodé.
C'est un livre qui
devrait être très moderne.
Je suis d'accord avec toi.
Et qui est. Tu as l'impression.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça se veut très, très violent contre les Parisiens. Et en fait, c'est un livre très parisien.
Oui,
très
mais
parisien.
Comme je suis d'accord avec Olivier.
C'est un livre démodé.
C'est un Paris qui n'existe plus.
Je trouve que ça te raconte des choses que tu as déjà beaucoup lues. La révolte des prostituées, tout ça. C'est pas nouveau.
Puis le Parisien, c'est voilà. Pas simplement.
Mais
ça,
en même temps, j'ai du mal à le déchiqueter. Je ne sais pas si Olivier Pie est là.
Tu ne l'as pas déchiqueté.
Il y a un vrai projet, et puis c'est quand même très ennuyeux. Mmh. Allez, faut le dire. Le dis.
Jean-Claude.
On connaissait Olivier Pie comme quelqu'un de très verbeux et de passablement narcissique. Moi, je lui suis reconnaissant de nous en apporter la preuve. Et je remercie les éditions Actes Sud de lui laisser 550 pages pour nous le prouver dès la première page et bien nous expliquer ça jusqu'au bout. C'est un livre insupportable, mais insupportable sur les deux registres, verbeux et narcissique. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de s'admirer. Je suis tout à fait d'accord avec Olivia. C'est un livre mais vieillot, daté, poussiéreux, d'une rhétorique totalement ringarde, faussement transgressif. Mais ça en est même ridicule à quel point c'est faussement transgressif, quoi. C'est bourré de clichés homo, mais faussement transgressif, je dirais. C'est pas Genet, c'est même pas Pierre Combesco. On est en dessous de tout. Le seul truc, c'est que ce type s'admire. Voilà. Il aime s'admirer, et il veut qu'on le sache.
Et il veut
qu'on le sache. Et puis surtout, c'est un livre d'un conformisme. C'est-à-dire, c'est censé être super révolutionnaire dans le propos, dans la langue, dans tout ça. C'est un livre d'un conformisme. Donc, et alors, tu parlais de mysticisme, tout ça. Écoute, on va s'épargner mutuellement les considérations philosophiques sur le sexe, la vie, la mort, la musique, le truc.
La croix est dans les backrooms.
Non, mais c'est grotesque. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Enfin, moi, je dois quand même confesser. Que j'ai arrêté à la moitié du livre, j'ai jeté l'éponge, là, j'en ai marre, quoi. Moi, je lui pardonne pas d'avoir pris le prénom d'Aurélien. En effet, dans la littérature, Aurélien, c'est Aragon, et on n'y touche pas, quoi. Et surtout pas de cette façon-là, quoi.
Arnaud.
C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu jusqu'à la fin, qui est un très grand livre, évidemment, un très grand livre politique. C'est un livre qui est pour la prostitution des corps et contre la prostitution des esprits. Et c'est une démonstration implacable, très forte, politiquement absolument. Il met les pieds dans le plat à chaque moment, avec des phrases. Moi, je trouve, là, il y a justement, tu citais des phrases, moi j'en ai lu des très très belles. Il y a une phrase, c'est « La pluie est sale comme le cœur d'un ministre ». non seulement c'est un alexandrin, mais en plus on dirait qu'il est de Verlaine, quoi. C'est juste, mais magnifique, et en plus tellement vrai, quoi. On le sent là,
tu
le cœur d'un
ministre.
Et il y en a une autre que j'adore, c'est le bruit des pantoufles est pire que le bruit des bottes. Voilà ce que ça raconte. Et moi, je trouve que ce livre, il est solaire. Le type, il éclate. Et en plus, il a une chose que j'adore, parce que évidemment, c'est le théâtre sodomise le roman là, parce que c'est un livre théâtral, évidemment.
Oui, parce qu'il faut dire que ce ne sont que des dialogues, hein.
Oui, ce sont quasiment que des dialogues. C'est que vous êtes là au théâtre. Mais moi, je déteste aller au théâtre. Je m'excuse, tu es à l'opéra là en ce moment, mais j'ai un peu de mal avec ce que Barthes a très bien parlé, Serge Danet aussi, quoi. Le public, c'est le contraire du cinéma, le théâtre, voilà. Mais il y a le théâtre sans le théâtre. J'ai l'impression de voir, après avoir lu les 500 pages, d'avoir assisté à une représentation.
Ces dialogues-là dans des bouches de comédiens.
Oui, mais ça serait formidable. Mais
même dans le off d'Avignon, on n'en voudrait pas.
Malheureusement, mais si, bien sûr. Ça donnerait un
même
spectacle.
Même dans un troupe de théâtre en redressement.
Le malheur, c'est que tu as raison. Les morceaux que tu cites, les grumeaux qui surnagent.
Quand j'ai raison, c'est jamais vraiment un malheur. En tout cas, pour moi.
Mais c'est noyé, malheureusement, dans une mélasse.
Non, mais c'est tout.
Mais non,
qu'est-ce qu'il raconte?
Il y a un côté jaculatoire, vraiment, entre logorée, gonorée.
C'est ça que t'aimes dans le livre.
Oui,
c'est le côté jaculatoire.
C'est pompier dans plein de sens du terme. Oui, non, oui, il y a tout ça. Et en même temps, c'est juste solaire. C'est drôle, c'est punk, voilà. C'est de la littérature punk.
Non.
Ce qui est génial, c'est qu'il a l'air vraiment d'y croire. Hein.
Oui. Non, c'est pas punk. On ne peut pas dire que c'est punk. Mais
tu parles des dialogues. Si. Tous les personnages parlent de la même façon, tous.
Mais oui.
Et un ton trop haut.
Mais ils sont tous de la même classe. C'est un.
Non.
Non.
C'est un punk qui a reçu la Légion d'honneur.
Et Arnaud, il parle de ça
sur l'industrie culturelle. Évidemment, ça n'a pas changé depuis Balzac. Voilà.
Ah ben non, mais ça c'est vrai.
Tout ça pour ça ?
Mais encore faut-il le dire.
Ah ben tout ça pour ça, encore faut-il le dire. Si quelqu'un ne le dit pas aujourd'hui, alors
qu'il faut-il savoir.
Balzac, on dit, mais savoir
le décrire.
Non, on a besoin d'écrire.
Arnaud, t'as raison, si quelqu'un ne le dit pas, on le saura pas. Mais tu as raison, personne ne le saura. Non, attends, c'est ridicule.
Et tant mieux.
En tout cas, si vous n'avez pas peur d'être éclaboussé par ce gros roman éjaculatoire, c'est comme ça que tu l'as défini, là. C'est donc Les Parisiens, vous êtes bien sûr France Inter, c'est chez Actes Sud, et c'est signé d'Olivier Py, le patron du Festival d'Avignon. Et on termine avec 2 ans, 8 mois, 28 nuits, le nouveau roman de Salman Rushdie, traduit par Gérard Medal, toujours chez Actes Sud. On voit que dans cette maison, le spectre est large. Rushdie, contre qui, je le rappelle, l'Iran a réactivé sa fatwa en février dernier, avec un bonus de 600 000 dollars, soit 4 millions à qui l'éliminerait. Bref, ce livre qu'il appelle son grand roman américain s'ouvre en Andalousie au XIIe siècle, quand Dunia, la déesse de la foudre, s'unit au philosophe musulman Averroès, dont le pire ennemi est le soufi Ghazali, sorte de djihadiste avant l'heure. De l'union entre Dunia et Averroès naissent des djinns qui, 8 siècles plus tard, envahissent New York. Alors, il y a les bons, bien sûr, et puis les mauvais djinns. Non, pas de jeu de mots, s'il vous plaît. Leur combat, qui est celui de la lumière contre l'obscurantisme, va durer 1001 nuits, soit 2 ans, 8 mois, 28 nuits. Le temps, soit dit en passant, qu'il a fallu à Sherazade pour embobiner son mari et pour qu'il ne la tue pas. Bon, alors, c'est un peu plus compliqué que mon résumé, il y a plein de digressions, ça aussi parfois entre le conte philosophique et l'héroïque fantasy. Au moins, ça manque pas d'inventivité, Jean-Claude.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des gin tonic, ça c'est sûr.
Mais justement, c'est ce que je voulais éviter que tu dises.
Mais c'est précisément parce que tu l'as fait.
Il l'a fait.
Non, alors, c'est
terrible. C'est terrible.
Mais oui, mais tu l'as sollicité en même temps. Enfin, tu vois, c'est voilà. Non, on retrouve le Rushdie des Enfants de minuit et des versets sataniques. Le problème, c'est qu'avec le temps, ça s'est pas, il n'y a pas gagné, quoi. C'est-à-dire, autant les Enfants de minuit et même les versets sataniques étaient, pour le coup, toniques, impressionnants. Là, il mélange évidemment tout un tas de choses, c'est-à-dire la tradition des contes orientaux, la culture américaine, ce que tu as dit tout à l'heure, héroïque fantasy, la science-fiction, la grande littérature, enfin. Mais tout ça devient à un bout d'un moment très, très, très incompréhensible. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, à saisir, à m'y retrouver.
C'est dense, disons.
Ouais, c'est dense. Non, mais c'est dense, mais surtout, c'est pour les amateurs de Grand 8, quoi. Pour les amateurs de manège un peu secoué, c'est un tapis volant qui est très agité. Moi, j'ai du mal à comprendre un peu le propos. On voit bien qu'il y a une critique du terrorisme islamique. Oui, on voit.
Il y a une allégorie des choses assez claire. Hein.
C'est la façon dont ça se tient qui est un petit peu compliquée, quand même.
Olivia.
Et lassante, quoi.
Moi, à l'exception du dernier livre, qui était un livre de mémoire, où il racontait sa vie, que j'avais trouvé très très beau, je n'aime pas tellement les livres de Salman Rushdie, alors que j'adore ses interviews. Il fait partie des gens que j'adore écouter parler, parce que
plaisir,
je trouve
ça.
Qu'il a une intelligence et un charme absolument irrésistible, et je n'aime pas tellement ses livres. Alors celui-là, on comprend rien, honnêtement, on comprend pas grand-chose. Il faut le dire. Lui-même, d'ailleurs, ne comprend pas toujours ce qu'il écrit, à mon avis. C'est très foutoir, c'est très fantasque. Parfois, il y a des personnages qui arrivent, après, ils disparaissent. On ne sait pas très bien.
Ça, c'est le propre des djinns.
Oui. Non, mais pas seulement les djinns.
Dans la vie aussi, hein, ça arrive.
Oui, on se dit que l'éditeur lui-même ne savait pas très bien.
Oh,
mais
non.
En fait, ça n'a aucune importance. Parce que je trouve que c'est bourré de trouvailles, et notamment la trouvaille, c'est le personnage principal, qui est une sorte de mélange entre une créature de Kafka et un personnage de Woody Allen. Vous savez, dans Woody Allen, il y avait ce personnage qui était devenu flou, et il était acteur, donc c'était un problème. Et là, c'est un homme qui se réveille, et il ne touche plus le sol.
Il est à 10 cm,
il est à
10
cm,
c'est pas plus, hein.
Mais
c'est pas facile pour lui quand il fait l'amour, hein, je vous dis.
Et pour plein de choses, mais c'est ça qui est intéressant, parce
que ça pourrait favoriser.
Il ne raconte pas du tout en quoi c'est une métaphore. Il explique en quoi c'est compliqué de conduire sa voiture, vous ne touchez plus les pédales et tout. Et c'est bourré comme ça de trouvailles, donc je trouve qu'il faut se laisser porter dans ce livre, une espèce de livre monstrueux, dans lequel il a envie de dire « je suis un écrivain de romanesque,
Arnaud,
et pas seulement l'écrivain de la fatwa ».
Quelques mots sur le Rushdie.
J'ai adoré, c'est un très grand livre. Ça lui vaudra le prix Nobel de littérature, ce qui, à mon avis, il l'aura très bientôt. C'est vraiment un immense...
fois dernière, tu n'as rien aimé, là, tu aimes tout, en fait.
Oui, j'ai tout aimé. À propos de ce type...
C'est à cause de Nancy ?
Ce type qui lévite à 10 cm du sol, Salman Rushdie écrit « Plus il s'élèverait, plus il aurait du mal à chier ». Écoutez... Si ça, c'est pas la phrase d'un très 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 grand écrivain, et qui d'ailleurs dit question intéressante. Effectivement, et tout le livre est comme ça. Il y a un ado qui, évidemment, comme tous les ados, rêve des super-héros, et qui découvre donc qu'il en est un, vraiment, à cause des djinns. Alors c'est vrai, donc, Salman Rushdie, autant vous le dire tout de suite, a un peu forcé sur le djinn, mais, il n'empêche qu'on comprend très bien ce qu'il veut dire. Et ce qu'il veut dire, c'est que, franchement, si on continue comme ça, on va vers l'apocalypse. C'est ça que raconte très bien le livre, avec des choses très, très précises sur le climat, la corruption, il y a un passage sur la corruption de la mairie de New York qui est absolument splendide. C'est-à-dire que ils héritent d'un gamin sur la porte de la mairie, devant la porte de la mairie. Quelqu'un a déposé un gamin. Et il s'aperçoit que ce gamin, quand vous le présentez vers quelqu'un de corrompu, il a sa peau qui se corrompt immédiatement. Alors tout le monde dans la mairie s'enfuit dans la mairie de Paris. Vous voyez non, je dis la mairie de Paris, dire de New York. Non, de New York, pardon.
Non,
ça se passe à New York, excusez-moi.
Oh non. Bon, Michel, quelques mots. C'est un désastre.
Très rapidement, je trouve que c'est totalement un livre féerique et en même temps très ennuyeux. Le problème, c'est que les raisons qui font que ce livre est féerique sont aussi les raisons qui font qu'il est ennuyeux. Alors pourquoi ? Parce que Rushdie était un lecteur extraordinaire qui est capable d'assimiler d'énormes machines à raconter de la fiction comme les Mille et Une Nuits, comme les contes philosophiques du XVIIIe siècle. Il connaît tout ça par cœur et il en fait une énorme machine littéraire qui n'a qu'un défaut, pour moi, qui n'a qu'un défaut, c'est qu'on n'y rencontre personne.
Voilà. Eh bien, ces 2 ans, 8 mois...
Ou débattu.
Chapeau.
Et 28 nuits, c'est donc le nouveau roman de Salman Rushdie, et c'est chez Actes Sud, une maison qui va beaucoup nous aimer ce soir. Et maintenant, on va passer au conseil. On va commencer avec Olivia de Lamberterie.
Alors, c'est une rentrée qui est très marquée par l'apocalypse.
Oui, ça, on l'a déjà beaucoup dit. Il faut peut-être pas trop le
répéter.
Et bien, j'ai choisi
un autre roman apocalyptique que j'ai adoré. Un roman d'anticipation. Je déteste ça.
Ah,
et
oui,
celui-là est formidable. Ça s'appelle Station Eleven. C'est une Canadienne. Émilie Saint-John Mandel, c'est chez Rivage. et elle raconte il y a une pandémie de grippe qui a ravagé la Terre. Il y a juste une poignée de survivants qui se sont installés dans des aéroports, dans des stations
essence.
Non. Non.
T'arrêtes, Arnaud,
ça, ça
oui.
Ça se passe à Toronto. Peut-être à la mairie de Toronto, éventuellement. Et au milieu de ces survivants, il y a une troupe de théâtre qui continue à jouer des pièces de Shakespeare. C'est un livre qui raconte qu'est-ce qui reste de la civilisation quand il n'y a plus rien. C'est un page-turner, c'est palpitant, et en même temps, ça pose plein de questions. Foncez, la fille, elle est jeune, elle est belle, elle est douée. Ça a été un très grand succès au Canada, aux États-Unis. Station Eleven, tu vas adorer, Michel.
Le conseil d'Arnaud.
Il y a un livre que j'ai adoré dans cette rentrée. C'est le livre de Benoît Dutertre qui s'appelle « Livre pour adultes ». Alors évidemment, c'est un livre sur la mort, autant le dire tout de suite.
Pas
c'est
simplement,
vraiment le sujet.
Pas
mais c'est un livre
sur l'enfance aussi,
oui, sur
la jeunesse.
Mais c'est sur la mort,
sur
mais en général. C'est la mort. Il y a une description de la mort d'un village des Vosges où il va depuis 40 ans. C'est absolument magnifique. Il y a un texte sublime sur sa mère qui est en train de mourir d'Alzheimer, à qui il rend visite, mais qui est vraiment un texte d'une beauté, qui est vraiment poignant. Il y a des fictions aussi très drôles sur la
il y a tout, il y a des récits, des fictions,
oui, il y a un mélange de récits et de fictions, mais
souvenirs.
Dont le thème est globalement la mort, la mort de l'art, la mort d'une civilisation, la mort d'une certaine forme de pensée. Et ce sont des textes qui sont c'est pas tragique, hein, il n'y a pas de ton comme ça, mais au contraire, c'est très beau, quoi. Il y a une espèce de force simple dans ce livre.
Il parle aussi bien de musique.
Livre pour adultes.
Que de la nature.
Le titre est magnifique.
Et c'est chez Gallimard, dans la collection Blanche. Mon conseil, un livre bref qui s'appelle Poupe. C'est signé François Cereza. C'est au Rocher où comment un ramoneur et imprimeur qui descendait d'ouvriers italiens est devenu l'ami des plus grands intellos de gauche. Jean Daniel, Michel Foucault, Edgar Morin. Il s'appelait donc Jean Cereza. C'était le père de François Cereza. Il est mort à 86 ans en 2012. Et son fils, d'ailleurs, qui maintenant porte, il raconte dans le livre, les chemises, les chaussures, les pantalons de son père, le fait revivre dans un livre qui est l'exact contraire du tombeau, c'est-à-dire c'est jubilatoire. On rigole du début à la fin. Très beau portrait de son père par François Cereza. Et c'est au Rocher, et c'est Poupe. Jean-Claude.
Le premier roman d'un auteur de 65 ans. Qui a fait tous les boulots dans sa vie. Il a même été cracheur de feu, funambule, cascadeur. Et ça s'appelle « Fils du feu ». Il s'appelle Guy Bollet. Ça se passe, c'est inspiré de sa vie. Ça se passe dans la forge de son père. C'est un livre absolument extraordinaire, avec un drame au milieu qui est... Il a perdu un frère et donc un fils. Et la mère ne s'est jamais... a toujours dénié cette mort et a accompagné la croissance fictive de ce fils mort. Et puis il y a l'univers de la forge, c'est-à-dire l'univers d'une classe ouvrière qui est traduite dans une langue poétique avec une puissance, une force. Et ces deux aspects-là, la forge et puis l'histoire du frère, c'est une véritable révélation. C'est un livre vraiment extraordinaire, Fils du feu,
chez Grasset.
Guy Bollet, chez Grasset.
Et pour finir, Michel.
Alors moi, j'ai choisi un livre de Stéphane Hoffmann, chez Albin Michel, qui s'appelle « Un enfant plein d'angoisse et très sage ». C'est un vers de Valérie Larbaud qui sert de titre au livre. Et c'est l'histoire d'un enfant un peu ballotté entre un père anglais extravagant qui se fiche éperdument de son existence et sa mère qui veut sauver la France et donc qui a autre chose à penser que de s'intéresser à son fils. Donc c'est un livre très touchant, très drôle, très élégant, très fin, sans lourdeur. Malheureusement, qui passe un peu inaperçu, donc si on peut lui donner une petite chance.
Tous ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian, Michel Crépu, Jean-Claude Raspienjaz, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir, à l'Opéra de Lorraine, à Nancy, à La Technique, il y avait Bernard Quentin, Adrien Gaza, Olivia Branger, Benjamin Perru, Mathieu Leroy, Franck Malabry. Merci aussi à toute l'équipe de l'Opéra National de Lorraine. La réalisation était signée Didier Lagarde. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est le jeudi 22 septembre. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions. L'une consacrée au cinéma, l'autre au théâtre. La semaine prochaine, à nouveau à Nancy, on parlera de cinéma. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.